une histoire dans le rétroviseur.
En mai 1936, la gauche remporte les élections législatives et Léon Blum est porté au pouvoir. Nous pourrions faire commencer cette histoire en septembre 1935, quand socialistes et communistes s'entendent sur une plateforme programmatique. Les ennemis d'hier, ceux qui passaient leur temps à s'insulter avec violence, ont fini par s'entendre. Aux yeux des communistes, les réformistes ont cessé d'être des social-fascistes parce que Staline a changé d'orientation. Le temps est à la promotion des fronts populaires et des alliances. Ceci fait, l'enjeu est maintenant d'attirer à gauche les radicaux, des radicaux qui sont capables de pencher à gauche s'ils ont le sentiment qu'ils en tireront un avantage. C'est un parti de notables avant tout. En janvier 1936, un programme commun est adopté. Il mêle des revendications politiques, économiques et sociales, réduction du temps de travail, augmentation des salaires, réforme fiscale, défense des libertés. On fait l'unité autour d'un slogan simple et fort « Pour le pain, la paix et la liberté ». Au premier tour, fin avril, chaque organisation présente ses candidats. Les résultats traduisent une forte poussée de la gauche. Avec 300 000 voix de plus qu'en 1932, cette alliance inédite semble être validée par l'électorat. Un électorat exclusivement masculin puisque, rappelons-le, la femme adulte est toujours considérée en France comme une citoyenne de second ordre. Au second tour, les reports de voix entre forces de gauche sont suffisants pour s'assurer la victoire. Première formation politique représentée à l'Assemblée, le Parti socialiste revendique la direction du gouvernement, notamment le premier d'entre eux, Léon Blum. Pour une partie de la droite et de l'extrême droite, Léon Blum a un terrible défaut, il est juif. Juif et habitué aux saillies antisémites de ses ennemis politiques, il focalise la haine de la droite et de l'extrême droite française. Avec humour et s'inspirant de Jean Jaurès, il a déclaré un jour « Quand je considère la haine que concentrent sur moi tous les tenants et suppôts de la réaction fasciste, je serais tenté de commettre parfois le péché d'orgueil. » À droite, à n'en pas douter, on préférera toujours un Hitler à n'importe quel front populaire. Début juin 36, alors que des grèves éclatent et se développent dans tout le pays, Léon Blum présente son gouvernement. 21 ministres, 14 sous-secrétaires d'État, dont 3 femmes, Irène Joliot-Curie, Suzanne Lacor et Cécile Brunschvig. 3 femmes, alors qu'elles n'ont pas le droit de vote. C'est une avancée, certes, mais les postes qu'elles obtiennent sont quasiment sans surprise. 2 d'entre elles s'occuperont d'enseignement, la 3e de protection de l'enfance. En revanche, il n'y aura pas de communistes dans ce gouvernement, Staline a mis son veto. Le 6 juin, à l'Assemblée nationale, Blum présente son gouvernement et son programme. Blum l'assure, il gouvernera en républicain et non en socialiste, non en partageux. Mais de ce moment historique, on ne retiendra que la saillie de Xavier Vallat, député d'extrême droite, de cette action française qui est encore puissante. Catholique, réactionnaire, nationaliste et rescapé de la Grande Guerre, le futur commissaire aux questions juives du régime de Vichy, Vallat, se lève et lâche ces mots lourds de sens « Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif ». Cette sortie est révélatrice de la vigueur de l'antisémitisme dans la droite française. Il fut même, comme l'écrit l'historien Gilles Richard, obsessionnel chez beaucoup d'hommes de droite, élus, militants, intellectuels et lecteurs, au point de les aveugler sur la réalité du monde.
Alternant FM.